Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Faut bien qu'on en parle ce matin, puisque c'est l'actualité brûlante et chaude du moment. Le retrait du contingent ivoirien de la MINUSMA, mon cher Armel Mendy.
Oui Gérard, les soldats ivoiriens engagés dans la mission de l'ONU au Mali quitteront eux aussi le pays au lendemain de l'annonce du retrait de 300 soldats britanniques de la MINUSMA. La Côte d'Ivoire a annoncé dans un courrier du 11 novembre son intention de désengager ses quelque 900 soldats. Concrètement, la lettre indique que la relève de la compagnie de protection basée à Mopti ainsi que le déploiement des officiers d'état-major et des officiers de police prévus respectivement en octobre et novembre 2022 ne pourront plus être effectués. Cette annonce intervient dans un sous-fond donc de crise diplomatique avec son voisin le Mali. Mmh. Allons-nous justement vers une rupture diplomatique entre Bamako et Abidjan? Vos avis nous intéressent au 27.
225 49 880. Voilà qui est clair, mon cher Armel Mendy. Alors, Lynn, ce matin, ce que nous allons dire, c'est un... On va parler du, avec toi du contingent composé...
Bon, je vais dire, ce que je peux dire déjà, c'est que le premier, voilà, arrivé, c'était le 18 novembre 2019. Et les derniers arrivés, c'était le 27 septembre 2020. Et puis, on se souvient que dernièrement, il y a eu un contingent qui est arrivé au Mali le 18 août 2022.
Donc, plus de 400 militaires.
Voilà, sans oublier de noter les 4 soldats qui ont perdu la vie, voilà, sur une mine dont le véhicule a explosé en janvier 2021.
D'accord.
Et pour être complet, Gérard, la Côte d'Ivoire est le troisième pays africain à quitter la mission au Niger, après le Bénin et l'Égypte.
D'accord. Donc, 27 225 49 880. Est-ce qu'aujourd'hui, la volonté de l'État ivoirien de retirer ses soldats, son contingent de la MINUSMA, est-ce que pour vous, elle sonne définitivement la rupture diplomatique avec le Mali? 27 225 49 880. Vos avis et commentaires nous intéressent. Tiens, déjà, nous avons des auditeurs qui se manifestent. Allô, bonjour, monsieur, madame.
Bonjour monsieur.
Oui, vous êtes monsieur.
Monsieur Tourépelé
est avec nous ce matin. Tiens, Tourépelé qui était dans nos locaux le vendredi dernier.
On était au concert de Kérosène
finale. Voilà. Mon cher Tourépelé, ce matin, on vous écoute.
Je vous dis merci d'abord pour le ticket. Ça m'a permis d'offrir un cadeau d'anniversaire à ma fille.
C'est génial.
C'était 19 ans.
Ça, c'est génial, ça.
Depuis... Je reviens maintenant
au sujet.
Au problème. Au sujet, je suis d'accord avec le président Alassane Ouattara. Parce que nous sommes des frères, nous sommes faits pour s'entendre.
C'est ça.
Lorsque nous sommes des voisins, nous sommes faits pour s'entendre. Et en tant qu'Africains, nous avons des alliés. Quand moi je suis en parlant avec un Sénifo, un Yakuba avec un Sénifo, quand un gourou vient, immédiatement on laisse tomber.
C'est ça.
Le président Alassane a fait intervenir tous les frères de la CDAO sur ce problème-là. Dieu qui ne se trompe pas, sauf Dieu qui ne commet pas des bêtises. Des hommes commettent des bêtises.
C'est ça.
Si le Mali pense que la Côte va commettre une bêtise ou une faute, que les frères de l'autre côté viennent demander pardon, ils devraient comprendre et laisser tomber. Et lorsque tu ne cherches pas à laisser tomber, mes enfants qui vivent chez toi, je les fais venir parce que on a perdu déjà 4 soldats. Est-ce que le Mali a contribué à remonter le moral de la famille, des familles endeuillées? Non, c'est le président Alassane qui a déboussé ou bien la Côte d'Ivoire qui a demandé, qui allait souhaiter les condoléances aux familles épeurées, n'est-ce pas?
Donc pour vous, pour faire court, mon cher Tourépelé, il faut rompre aujourd'hui, à cause de cette affaire, les relations diplomatiques complètement avec le Mali, c'est ça? Parce que c'est sûr à quoi ça ressemble un petit peu.
Oui, mais c'est parce qu'on est parti par tous les moyens pour demander pardon.
Bon, maintenant, c'est que les moyens diplomatiques, pardon.
Oui, les moyens diplomatiques pour demander pardon. Il y a des chefs qui se sont levés pour aller demander pardon.
D'accord.
Mais c'est une seule fois. Pardon, c'est une seule fois.
Merci.
Mais je ne veux pas entendre parler de pardon, mais ça sert à quoi de me battre à ta côté.
D'accord. Merci, monsieur Touré. En tout cas, on a entendu, vous êtes nombreux ce matin, on a entendu ce que vous avez à dire. 27 225 49 880. Allô, bonjour, monsieur, madame.
Bonjour la team, monsieur Gougou.
Oui, monsieur Gougou, Julien, très bon contributeur, bien évidemment, à notre émission, et un contributeur qu'on apprécie particulièrement. Mon cher Gougou, allons-y, on vous écoute ce matin.
Moi, je prendrais le conflit de monsieur Touré de dire. Mm-hmm. Alors, je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord avec lui, mais son point de vue ne me convient pas.
Ok.
Pourquoi je le dis ? Quand on parle de diplomatie, c'est la dernière arme avant la guerre.
Tout à fait.
C'est-à-dire que c'est la dernière arme avant la guerre. Il ne faut pas l'épuiser. Il ne faut pas être fatigué d'être diplomate. Mm-hmm. C'est pourquoi Foubani, il aimait toujours parler de paix. Donc, quand deux frères sont en guerre et que vous voyez que l'autre est réticent, comme la Bible dit, il faut pas que ce soit 7000 fois, il faut pas épuiser cette force-là.
C'est ça.
Parce que quand deux pays sont liés par une amitié, une fraternité qui date depuis qu'on est là, c'est pas ce problème-là qui va faire qu'on va rompre ce truc et aller peut-être à une solution beaucoup plus radicale.
Mmh. Mais alors, en même temps, aujourd'hui, mon cher Gogo, aujourd'hui, dans la cartographie, en tout cas, qui a présenté le fait que la Côte d'Ivoire retire son contingent de la MINUSMA, est-ce que ça ne traduit pas quelque part cette rupture-là diplomatique, même si on sait que la négociation continue toujours, fort Yassimbe, le président togolais, et donc l'interface entre Bamako et Abidjan.
Je suis de ceux qui pensent que les relations évoluent, ils sont quand même bizarres. Aujourd'hui, c'est le Mali. Demain, la Côte d'Ivoire aura besoin du Mali. Le Togo aura besoin de la Côte d'Ivoire. Je veux dire, il faut savoir garder raison. On ne doit pas rompre les relations diplomatiques, mais si elles sont rompues de façon comme on le voit là, parce qu'il faut qu'on arrive à résoudre le problème.
Okay.
La CEDEAO n'a pas joué son rôle. L'UEMOA n'a pas joué son rôle. Le Conseil de la Paix, même si le Mali ne peut pas partir, n'a pas joué son rôle. En Afrique, on a tous les mécanismes qui sont en place pour aider une crise entre deux pays, et deux pays frères, qui ont la même frontière en plus. Je pense que ça est en train de démontrer que s'il y a une crise en Afrique, on peut pas le résoudre. La Côte d'Ivoire, le Mali, deux pays qui sont partis, qui partagent le même village, ont un petit problème de compréhension, de soldats, et ça devient un problème international, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est un autre pays qui est anglophone, on n'a même pas les mêmes réalités. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le président écoute, comme tous les services sont à l'écoute de la gardienne et la
situation. Monsieur Gogo, les autorités maliennes ont été claires. Elles disent justement qu'elles ne veulent pas un règlement durable, justement, de ces différentes questions-là, par exemple. Elles demandent, par exemple, à la Côte d'Ivoire de ne pas servir de base arrière, justement, pour.
Une déstabilisation.
Pour ne pas monopoliser la ligne.
À ce niveau-là,
le Mali ne va pas faire un coup d'histoire à la Côte d'Ivoire. Le Mali aussi a servi de base arrière à un moment donné à la rébellion en Côte d'Ivoire. On sait qu'il venait du Nord et on a eu des milliers qui étaient intégrés. Je suis en train de dire, comme deux pays frères, les crises vont toujours exister. Si on doit parler de base arrière de chaque rébellion dans chaque pays, la Côte d'Ivoire a été base arrière de Libéria, à un moment donné, on l'a su, ça a causé des problèmes, il faut se passer de ça et avancer. Quand on est frère, on va plus faire de la guerre, des choses, il ne faut pas accéder, il ne faut pas dépasser la diplomatie, il ne faut pas aboutir à une solution radicale. Parce que demain, le Mali aura besoin de la Côte d'Ivoire.
C'est ça.
Qu'est-ce que je veux dire?
Merci, mon cher Julien Gogo, très bon contributeur.
Quand on aura besoin de moutons, on aura besoin de
bien évidemment, très bon contributeur, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne bien évidemment cette émission. 27-225-49-880, que traduit, selon vous, le geste de la Côte d'Ivoire de retirer son contingent de la MINUSMA? Est-ce que c'est la rupture définitive des relations diplomatiques avec Bamako? 27-225-49-880. Allô, bonjour, monsieur, madame.
Oui, Monsieur Kouassi. Bonjour.
Monsieur Kouassi est avec nous ce matin. Bonjour. Monsieur Kouassi, on vous écoute.
À mon avis, je pense que on n'est pas encore au stade de la rupture totale, mais c'est quand même, selon moi, un signe d'agacement.
C'est ça.
Parce que si vous avez une surveillance, la Côte d'Ivoire a relevé un de ses contingents il n'y a pas longtemps.
Tout à fait.
Quand il y a 245 ou 250 personnes qui sont parties, malgré le fait que
cette crise-là existait
encore. Voilà, mais après, vous avez vu la sortie du premier ministre malien à la tribune des Nations Unies.
On s'en souvient.
Après, comme le disait un consultant hier sur une chaîne de télé, le travail est devenu difficile. Les Français qui assuraient le soutien aérien en cas d'attaque des forces au sol, les Français ne sont plus là. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vos soldats sont au sol, qui sont en train de faire une patrouille, qu'il y a une attaque, ils ne peuvent pas avoir un appui aérien. Parce qu'avant que cet appui aérien ne se fasse, il faut demander l'autorisation des autorités maliennes, dont les conditions de travail deviennent difficiles.
Okay.
Si on doit rester dans un territoire aussi difficile, pour perdre nos hommes. Mais à quoi ça sert? On ne peut pas aller vous aider et puis vous nous accusez d'aller vous déstabiliser. Okay. C'est une chose l'une. Ou vous nous dites directement, rentrez chez vous, mais vous ne nous maltraitez pas de cette façon. Donc pour moi, c'est normal qu'aujourd'hui, Abidjan fasse revenir ces hommes, mais il n'y a pas de recul diplomatique. Vous avez vu, depuis cette crise, l'ambassadeur malien n'a jamais été interpellé. Il y a des jeunes Ivoiriens même qui avaient décidé de faire un sitting, mais les autorités leur ont dit non, on ne va pas jouer à leur jeu. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le mal...
Oula, ce que vous dites là est tellement intéressant, cher monsieur Kouassi.
En plus, un baoulé.
Il pourra revenir, ça.
Voilà, donc revenez, en tout cas, monsieur Kouassi. Certainement qu'on va, voilà. Parce que, donc, selon lui, en tout cas, ça n'est pas tant une question des 46 militaires qui sont détenus, bien évidemment, au Mali. C'est une question de sécurité, c'est-à-dire pour le contingent ivoirien lui-même, par rapport à une certaine lecture, par rapport à une certaine cartographie, une certaine situation, bien évidemment. Qui prévoit à Bamako.
En fait, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est suite à l'arrestation de nos 46 soldats.
Ok.
Voilà, donc si on accuse certains soldats de déstabilisation pardon, du pays, ben écoutez, pourquoi laisser les autres en même temps? Donc, d'où le côté sécuritaire dont vient de parler notre auditeur précédent.
Monsieur Kassi. Oui, de toutes les façons, Kouassi, voilà. Même si nous voulons aussi parler de la sécurité, c'est vrai que les autorités maliennes, elles, sont droites, bien évidemment, dans leurs bottes. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, c'est évident, elles le disent, clairement, il y a Wagner qui est présent sur le terrain, même si, de Wagner, on n'a pas non seulement, un beau regard, on se dit que Wagner n'est pas assez suffisant parce que la sécurité, depuis que c'est retiré, les troupes françaises est mise à mal. Bon, ça c'est le regard que l'Occident a, ce qui n'est pas forcément le regard du Mali.
Moi je veux dire également, les autorités ivoiriennes ont raison, parce que j'ai l'habitude de dire, ce que tu fais pour moi sans moi, tu le fais contre moi. Si je décide d'aider quelqu'un qui refuse mon aide, à un certain moment, ben, écoute, je me retire. Et il faut le dire, en 2018, on reçoit ici le premier ministre malien, Soumaïla Boubaï, qui parle de coopération avec la Côte d'Ivoire. En 2019, on reçoit encore un autre premier ministre qui parle de coopération énergétique et qui voulait voir cette coopération-là évoluer sur d'autres secteurs, notamment des secteurs commerciaux. C'est-à-dire que, depuis longtemps, le Mali affichait cette volonté-là de pouvoir coopérer avec la Côte d'Ivoire.
C'est ça.
Mais pourquoi il y a cette rupture aujourd'hui?
Non mais déjà là on était au temps de Ibeka. Voilà, Ibeka normalement est dûment élu, enfin si on peut ainsi s'exprimer. Après il y a eu Assimi Goïta qui vient par un coup d'État.
Donc c'est pour dire que de façon traditionnelle, les relations entre le Burkina, entre le Mali et la Côte d'Ivoire ont toujours été au beau fixe.
Bien sûr.
Et on a cette volonté-là de pouvoir s'affirmer, de pouvoir affirmer un certain patriotisme, un certain chauvinisme, reconquérir un peu une gloire perdue. Moi, c'est l'impression que j'ai avec le Mali aujourd'hui. S'affirmer sur le plan international comme un pays qui s'affirme, un pays, je veux dire, panafricaniste, entre guillemets. Mais je pense qu'on ne peut pas évoluer en vase clos. À un certain moment, on a besoin de ses voisins, on a besoin des pays qui font frontière avec nous.
Pas que le Mali ait envie d'évoluer en vase clos, mais je crois que le Mali veut réorienter, en tout cas,
le Mali a clairement affiché ses ambitions, donc il n'y a rien de stationnaire.
Comme je dis, il veut réorienter sa discussion avec d'autres pays, avec d'autres nations, pas avec ceux qu'on connaît de façon classique, comme la France, par exemple. En tout cas, pour ce qu'on voit, pour les actes qui sont posés par Assimi Goïta et ses pairs, c'est ce qui ressort, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on ressent.
Oui, c'est ce qu'on ressent. Mais bon, moi, je me dis, derrière tout ce qui est complexe de supériorité, tout ce qui est volonté de s'affirmer, il y a forcément un complexe d'infériorité qui est caché quelque part. Et à un certain moment, le Mali veut dire également que la Côte d'Ivoire, vous et moi, on parle aujourd'hui d'égal à égal. Mais je pense que nos autorités ont bien fait de pouvoir retirer nos troupes du Mali. Mais la question également, c'est que on a durci le temps. Mais nos 46 soldats sont encore au Mali.
Justement.
C'est bien, on a encore les doigts dans la bouche
des
autorités maliennes.
En retirant. Attends, mon doudou.
Oui.
Attends, de Perpignan, qu'il termine, parce que ce qu'il dit là est intéressant.
Il va revenir sur la même chose.
En retirant. Le contingent ivoirien de la MINUSMA. C'est-à-dire que les autorités maliennes auront une autre lecture pour dire tiens, ça va les conforter dans leur position en fait.
C'est clair.
Ah, tiens.
À moins qu'on ait un plan B en réalité.
J'ai vu qu'il a dit la même chose. Moi, ce qui me cœur, oui. C'est qu'on a des ressentissants dans cette diaspora-là. Mm-hmm. Les Ivoiriens qui sont là-bas.
C'est ça.
Je pense qu'arrivé un moment, c'est à eux que le président pense aussi. Mm. On a 46 soldats, 49 bloqués, et on nous envoie notre contingent pour soutenir toujours. C'est-à-dire que le président, arrivé un moment, s'est dit, bon, écoute, c'est pas qu'on règle le problème, mais j'envoie toujours mon soutien. Quelqu'un t'égypte, tu lui donnes encore un billet de 10 000. Voyez, donc le président, lui, il a joué vraiment le... je pense pas que c'est un jeu, mais ce qu'il fallait faire. Mm. Vous n'avez plus 46, mais on est toujours gentil, on vous ramène toujours des gens pour vous aider. Mm. Si c'était moi, le président de la République, tu me bloques mes 46 nommés, je te cède pas le poids.
J'ai pas trop compris le point de vue de M. Desperpignan.
Merci, voilà. M. Desperpignan. Merci, les amis.
Et si on en parlait?
Normal, pas normal, et si on en parlait, ce matin, le docteur Biti Marie-Joseph, directeur de la direction des établissements privés des professions sanitaires, est notre invité. Donc nous parlons de l'opération zéro clinique illégale. Eh bien, docteur, vous souhaitez intervenir sur ce que nous disions tantôt, c'est-à-dire que moi, je suis un patient, j'arrive dans une clinique, je ne peux pas dire, tiens, montrez-moi... votre agrément qui atteste bien évidemment que vous êtes une clinique normalement et dûment constituée. Moi, je suis venu pour me faire soigner.
Tout à fait, vous avez raison. Mmh. Mais il faut dire que la clinique, l'établissement sanitaire privé, constitue environ 50% de l'offre de soins.
Ok.
C'est-à-dire que à peu près 50% de la population se soigne dans les établissements sanitaires privés.
C'est ça.
À Abidjan, on parle de 60%. Mmh. Alors, comment reconnaître en fait un établissement sanitaire privé légal?
Ok.
Nous sommes en train de déployer les moyens à ce sujet en mettant en place des immatriculations, des plaques d'immatriculation des établissements sanitaires légaux.
Et qui seront visibles?
Et qui seront visibles. Mmh. Qui seront donc à l'entrée de l'établissement.
Ok.
Et nous sommes en train de mettre aussi en place des outils de visibilité, c'est-à-dire une signalétique, une enseigne spécifique. Un peu à l'image des pharmaciens,
d'accord,
comme on voit de loin.
Avec le caducé.
Exactement. Mm. Exactement. Un peu à l'image des pharmaciens où on voit déjà une croix verte.
C'est ça.
De loin. Cabinet dentaire, on voit une croix rose.
Rose. Mm.
Nous allons donc mettre une signalétique, des outils de visibilité pour ces établissements-là, de sorte que la population puisse nous aider à faire en sorte que ceux qui sont dans l'illégalité puissent être connus et reconnus.
Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc, désormais, mesdames et messieurs qui nous écoutez, faut faire très attention parce que là, le ministère de la Santé va déployer cette mesure-là qui va vraiment aider les uns et les autres. Lynn Beugri.
Alors, madame Biti, opération zéro clinique. On sait que le souci.
Illégal.
C'est un problème qui doit être déjà résolu à la base. D'accord, à la base et pour longtemps. Donc, est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que ces établissements illégaux ont pu fonctionner, voilà, sans être inquiétés pendant longtemps?
Donc, ce que je peux dire, c'est que ces établissements illégaux, comme j'ai eu à le dire, il y a quand même deux types. Mmh. Les clandestins, ils ont prospéré vraiment dans l'illégalité. Quand on les ferme, ils se déplacent. Ou bien alors, ils ouvrent à 18h. Ou bien ils sont dans une cour commune.
Dis donc.
Ou bien alors, voilà, c'est-à-dire qu'ils posent des actes qui sont difficiles à réprimer parce que, bon, on n'arrive pas à les saisir. Mais actuellement, ils sont sensibilisés à la question et ils savent. En tous les cas, plusieurs organismes sont venus nous rencontrer. Je leur ai dit, il faut qu'ils se régularisent dans la mesure où c'est possible. se régularisent et que donc ils rentrent dans les rangs parce que nous allons procéder à un démantèlement de ces établissements-là qui ne sont pas en faveur de la qualité, qui ne sont pas en faveur d'une bonne santé pour nos populations.
Mmh. Pour abonder dans le même sens de la question de Lynn Beugré, est-ce que ces personnes, quand elles sont identifiées, qu'on a mis la main sur elles, est-ce qu'elles sont passibles par exemple de peine d'emprisonnement ou quelque chose dans ce genre?
Oui. Ces personnes peuvent être passibles de peine d'emprisonnement, surtout dans le cas d'exercice illégal. Mmh. Surtout dans le cas d'exercice illégal. Que ce soit en clinique, en polyclinique ou dans ces petits établissements.
Ok.
Je vous ai dit que la capacité d'exercer est liée à l'inscription à l'ordre.
Tout à fait.
À l'ordre de la profession. Ceux qui ne sont pas organisés en ordre, par exemple, nous avons donc constitué ce qu'on appelle les conseils nationaux des professions.
Mmh.
Ils sont l'équivalent de l'ordre auquel les structures s'inscrivent, auxquelles les personnes s'inscrivent. Je prends l'exemple des opticiens qui sont inscrits au Conseil national de l'ordre des opticiens et à qui nous délivrons une carte professionnelle. Sans cette carte professionnelle et sans cette inscription au registre, ils ne peuvent pas exercer.
Okay.
Et en cas de contrôle, ils sont forcément en mauvaise situation.
Mm-hmm.
Donc, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il peut encourir des dispositions judiciaires aux gens qui ne sont pas dans la légalité? Mm-hmm. Je dis oui.
Mm-hmm.
D'abord, nous avons deux types de sanctions. Sanctions administratives, sanctions judiciaires. Administratives, c'est-à-dire que c'est fermeture de l'établissement.
Ok.
Ça peut être provisoire, ça peut être définitif, ça peut être immédiat ou bien ça peut être une mise en demeure d'abord,
mm-hmm.
avant la fermeture. Mais les fermetures, les actes judiciaires qui peuvent être posés, c'est donc l'arrestation. C'est l'arrestation avec donc des moments d'emprisonnement,
okay.
des temps d'emprisonnement en fonction de la faute commise.
De la gravité.
De la gravité de la faute. Je dis ça parce que il nous est arrivé de porter des personnes en justice
mm-hmm.
parce que dans l'établissement, il y a eu des malfaçons. Voilà. Il y a eu mort d'homme,
mm-hmm.
il y a eu mort de bébé,
mm-hmm.
il y a eu mort de femme enceinte dans des conditions qui ne sont pas acceptables.
Wow.
Et donc, ces personnes-là ont été portées devant la justice.
Mmh. Nous parlons ce matin de santé. Donc, le téléphone est ouvert à 27 225 49 880. Si donc vous voulez intervenir, Armel Mendy.
Madame, j'ai envie d'être un peu méchant. Mmh. Est-ce que vous ne faites pas le médecin après la mort? Les cliniques constituent 40 à 50% de l'offre médicale en Côte d'Ivoire. On a 81% d'hôpitaux, de cliniques qui existent dans l'illégalité. Qu'est-ce qu'on faisait pendant tout ce temps-là?
Pendant tout ce temps?
Laisser prospérer ces cliniques privées-là, alors qu'il s'agit de la santé des Ivoiriens.
On n'a pas laissé prospérer. On a quand même fait des contrôles pendant ces périodes-là. On a suivi ces établissements. Il y en a qui ont des documents, d'autres n'ont pas de documents. En tous les cas, ils sont suivis. Et même, je peux dire, certains sont même accompagnés pour rentrer dans la légalité. Mais la période dans laquelle nous rentrons est une période d'intensification. C'est une opération qui permet vraiment à surtout ceux qui sont dans la clandestinité de sortir de la clandestinité.
Mmh.
On leur offre cette opportunité-là. Donc, je ne peux pas dire que nous soyons médecins après la mort.
Mmh.
Nous avons suivi les choses depuis plusieurs années, mais nous intensifions les actions actuellement parce que nous voulons une santé de qualité, une santé de proximité pour nos populations.
C'est donc, moi madame a dit tout à l'heure, cette clinique, on les appelle piqûrerie.
Mm-hmm.
Donc, ça dit que pour piquer aujourd'hui, il faut avoir des papiers. Pourquoi vous ne donnez pas des papiers aux moustiques qui nous piquent?
Oh. Ils font
le même boulot.
27 225 49 880.
Amenez-moi les moustiques, on va leur faire des papiers.
Madame Bitti, on a quelqu'un qui est là avec nous ce matin qui souhaite intervenir. Allô? Voilà, notre contributeur, monsieur Gogo.
Alors, en 2005, au temps de la ministre Raymond Goudou, avec le docteur Joseph Bodifo, il était question de ce même problème, où déjà on avait 70% des cliniques qui existaient dans l'illégalité en Côte d'Ivoire. Il y avait même des tests, ils n'avaient pas des tests qui n'étaient pas adaptés, que le contexte n'était pas bien régi. Aujourd'hui encore, on revient dessus. Alors que les infirmiers et les médecins qui exercent dans le corps avaient mentionné le coût des équipements et même aussi l'évolution des taxes pour pouvoir ouvrir une clinique, par exemple, pour les équipements médicaux. Alors, l'un mis dans l'autre, quand on voit le coût, quand on voit les taxes, est-ce que cela ne favorise pas que ces cliniques prospèrent dans l'illégalité? Ma dernière question est sur ce que M. Mehdi a dit tout à l'heure. Alors, pour se faire soigner, ça se sent. Le malade, tout à l'heure, dans l'environnement, on sait où il va. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ces cliniques ne sont pas visibles? Mais si c'est une cour commune, au moins, on sait qu'elles sont visibles. On espère que cette fois-ci, c'est vraiment une campagne qui va démanteler ces réseaux, qui sont soit des laboratoires d'avortement illégaux, des soins illégaux, des gens meurent chaque jour, et au vu aussi de tout le monde, quand je ne sais pas, je ne pouvais dire qu'on ne sait pas. Mmh. Parce qu'après, il y a le bilan de la police qui est là, on voit où la personne est décédée. Donc, on encourage. Mais quand on finit la clinique, les médicaments qui sont vendus aussi en bordure de rue font partie de ce même système. Encore qu'ils ont fait de la publicité pour faire cher, alors qu'il y a des actions qui peuvent vraiment aller plus vite. Mmh. On vous encourage. On espère que docteur Demba fera quelque chose de concret cette fois-ci. Parce que ça fait depuis 2005 que nous sommes sur ce problème. Ça n'a jamais évolué. C'est ma contribution.
Merci, très cher monsieur Gogo. Voilà. En tout cas, bon, il y a trois volets, bien évidemment, dans sa réflexion. Déjà, une première question qui est relative au coût. Voilà. Et ensuite aussi aux cliniques qui prospèrent, bien évidemment, dans l'égalité relativement à ça. Et puis, pour terminer aussi, comme on le dit, les pharmacies par terre. Allez-y, docteur.
La première chose, c'est que en 2005, ce n'était pas Raymond Goudou. C'est la première chose. Bon, effectivement, depuis 2005, certainement, il y avait des cliniques illégales. Et c'est pour ça que nous avons ciblé cette opération jusqu'en 2025. Mmh. Pour non seulement les contrer dès maintenant, mais assurer de la surveillance, la répression et le suivi d'ici 2025.
Okay.
Concernant le coût des établissements, effectivement, monter un établissement clinique de qualité est une grande chose, c'est une grande valeur. Mmh. En tous les cas, c'est quelque chose que nous offrons à la population et nous voulons offrir cela à la population. Donc, le coût, c'est le coût des équipements. C'est le coût de la qualité. Mmh. Mais il faut dire que pour booster un peu la chose en Côte d'Ivoire, il y a eu des modifications qui ont été actées par Monsieur le ministre Pierre Demba. Il faut en sorte qu'un établissement peut être créé par une personne physique. Alors, c'est un propriétaire, c'est un professionnel. Propriétaire est un professionnel, ou bien alors par une personne morale, c'est-à-dire donc une société, une entreprise qui donc crée, est promotrice de cet établissement de santé. L'avantage, c'est que des financiers peuvent s'investir, mais il est important que dans l'actionnariat de ce financement, il y ait des professionnels de santé, parce que la santé, ce n'est pas comme une plantation, ce n'est pas comme on vend des vélos. Il faut qu'il y ait des professionnels dans cette société.
Vous attaquez Noël, madame. Là, c'est surtout.
Il faut qu'il y ait des professionnels dans l'actionnariat, c'est extrêmement important. Il faut aussi qu'il y ait un responsable médico-légal dans la structure. Ça, c'est vraiment important. Mmh. Donc, les coûts sont les coûts de terrain. Voilà. Donc, voilà.
Maintenant, vous avez peur de marabouts et des féticheurs?
Des marabouts et des féticheurs?
Parce qu'on a l'impression que cette clinique les appartient. Puisqu'on ne vous les voyait pas la journée et la nuit, ils apparaissent. Il faut aller consulter pour dire telles les cliniques qui ne sont pas... voilà, qui ne sont pas en règle. Les marabouts, ils font bien ça.
Mais je suis d'accord avec vous. Je vous indique qu'aujourd'hui, je ne discute pas.
Voilà. Surtout avec M. Le Perpignan.
C'est pas possible. Moi, j'ai envie de demander un petit conseil pour les établissements illégaux que vous avez identifiés. Comment est-ce qu'on peut faire pour les reconnaître, pour ne pas y aller?
Faut venir la journée, plusieurs amis. Ils ont pas
la c'est vrai,
je suis d'accord. Avec votre, enfin, je suis d'accord. Comment faire pour les reconnaître? C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes en train de mettre des outils de visite. Voilà, les plaques d'immatriculation, les enseignes pour permettre de les reconnaître.
Est-ce qu'ils vont pas enlever encore?
Non, je vais enlever. Pour mettre ce que vous avez gardé.
S'ils enlèvent, ça veut dire qu'ils veulent rester dans la clandestinité.
Pourquoi
ils veulent rester dans la clandestinité? Ça aussi. Parce que pourquoi ces établissements, les piqûreries, et même d'autres, je peux vous dire, d'autres établissements, centres médicaux, cabinets dentaires, ne veulent pas faire les papiers. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément une question d'équipement.
C'est ça.
Vous savez, il y en a qui n'ont pas ce qu'il faut pour vraiment constituer leur établissement de santé.
Ok.
Soit le propriétaire, je vais le dire ici, est à l'étranger. Il sous-traite l'autorisation et donc il n'est pas là. Et en plus de ça même, le fonctionnement de l'établissement n'est pas adéquat. Donc c'est ce qui fait que d'autres, ils ont déposé leur dossier. Alors on les appelle, parce qu'on les appelle bien à tout moment, venez régulariser. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en règle et ils ne peuvent pas être en règle maintenant. Donc nous allons les contraindre à être en règle.
Parfait.
Concernant la question de médicaments, la question de médicaments de la rue, c'est effectivement un grand problème. Parce que peux dire oui, c'est ça. Ce sont des réseaux à démanteler.
C'est ça.
Et le ministère de la Santé s'y attelle. Mais le souci, c'est quoi? C'est que la population a besoin d'une proximité.
Mmh.
Aussi bien en matière de soins qu'en matière de médicaments. Donc, en matière de soins, la proximité, nous l'avons, en tout cas, nous sommes en train de la développer. Voilà, pour que, à côté de chez nous, on puisse avoir un établissement de bonne facture.
Et de bonne qualité.
De bonne qualité, à côté de chez nous. En matière de médicaments, il y a aussi la possibilité, dans les officines officielles, d'acheter des médicaments, je peux dire, en détail. Voilà. Qui permettent donc à la population de se soigner.
Parfait.
Donc voilà.
On va prendre la dernière question puisqu'on est quasiment déjà à la fin avec Armel Mézir.
Oui. J'ai deux préoccupations, mais bon.
Malheureusement.
Alors madame, pourquoi est-ce qu'on n'établit pas clairement une cartographie des établissements et cliniques agréées en Côte d'Ivoire? Quand j'ai besoin d'une clinique, je sais qu'à Yopougon, telle clinique agréée. Enfin, une cartographie par région, par ville.
Intéressant.
Je sais par exemple qu'à chez moi, à Niangon, voici le nombre de cliniques privé, légalement constitué. C'est simple. Et deuxième question.
Non, ça c'est déjà
bon.
Ça c'est déjà largement suffisant. Allez-y, madame.
Je vais répondre rapidement. Dans le cadre de nos missions, il a été mis en place un guichet des agréments des entreprises sanitaires. C'est genre un guichet unique qui accueille physiquement les promoteurs pour pouvoir constituer des établissements, pour pouvoir mettre en place des éléments sanitaires privés. Nous avons aussi une approche digitale. Qui est donc, nous avons mis en place avec l'appui de partenaires, le ministère de la Santé avec l'appui de certains partenaires, nous avons mis en place donc un guichet digital.
Ok.
Donc ce guichet digital, 3xw.idepssante.gouv.ci, donc ce guichet digital qui est mis en place permet donc l'enregistrement des demandes d'autorisation des promoteurs.
Ok.
Maintenant, la question que vous avez posée, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place une cartographie? Oui, nous avons une cartographie.
C'est-à-dire, je peux savoir le nombre d'établissements.
Exactement, j'ai bien compris votre préoccupation. Et nous sommes tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que le ministère a mis en place une cartographie des établissements sanitaires privés.
Ok.
À travers, donc, même ce site digital.
Ok.
Voilà.
www.deps.gouv.santé.ci. Parfait.
Donc, à travers donc, cette cartographie, pour laquelle nous avons actuellement cartographié plus de 3000 établissements, nous poursuivons. Avec cette opération qui est faite, les établissements seront donc encore positionnés sur cette cartographie, même géolocalisée.
Ok, et, intéressant.
Et il sera donc publié la liste des établissements agréés. La liste des établissements agréés à mettre à disposition de la population. Donc, je pense que votre préoccupation, elle est vraiment excellente. C'est un souhait que la population a et c'est un souhait auquel nous sommes en train de répondre. Nous avons déjà répondu en partie, mais nous évoluons positivement à cette réponse.
Parfait. Merci beaucoup. Madame Bitti, on aurait tellement souhaité encore avancer avec vous, tellement ce que vous dites est d'une importance extrêmement capitale. Mais bon, malheureusement, nous sommes talonnés par le temps et c'est bien évidemment déjà la fin. Donc, opération zéro clinique illégale jusqu'en 2025. Donc, si vous nous écoutez ce matin...
Le PDC, c'est là.
9 décembre, c'est la fin. Nous demandons aux cliniques de se régulariser. Établissement d'entreprise, clinique, polyclinique, cabinet, avant le 9 décembre.
Avant
les fêtes.
Ils n'ont pas de poulet à la maison. Mais Sabouti, madame, Sabouti, Roxy d'Adjamil, la pharmacie. Parce que jusqu'à là, ça fait des gouvernements passent, mais on n'a jamais démantelé le propriétaire.
Mais l'émission est finie.
Merci beaucoup, madame Bitti, Marie-Joseph, d'être passé chez nous, en tout cas. Merci beaucoup.
C'est un honneur et un plaisir.
Nous également. Merci, Lynn Begré. Merci, monsieur de Perpignan. Armel Mendy, l'ami Franklin. On se retrouve demain à partir de 6h. Précise, soyez là. D'ici là, portez-vous bien. Salut, que Dieu vous bénisse.
Amen.
Normal, pas normal. Et si on en parlait?